Vous écoutez
RMC.
Mercredi 10 août.
L'info sur RMC.
Il est 6h sur RMC, très bon réveil à vous tous tout de suite. Le premier journal de cette matinale, c'est avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. La première étape de l'opération de sauvetage du beluga coincé dans la Seine est pour le moment un succès. L'animal a été sorti du fleuve. La reprise des incendies en Gironde ces dernières heures, déjà 1000 hectares de détruits. Et puis la désillusion pour l'AS Monaco, les Monégasques ont dit au revoir à la Ligue des Champions hier après leur défaite 3-2 face au PSG.
À ce stade, l'opération n'est pas terminée, mais les nouvelles du beluga perdu dans la Seine sont bonnes. Ce matin, on prend donc la direction des bords de Seine.
Le cétacé de 800 kilos a été extrait du fleuve, sorti de Seine donc pour l'animal. C'était ce matin, un peu avant 4h. On vous retrouve à Saint-Pierre-la-Garenne, Mathieu Limongi, là où l'animal se trouvait. Et c'est une première étape réussie dans cette opération de sauvetage.
Oui, première étape réussie, ça y est, le jour se lève, la tension est redescendue derrière moi, les camions de pompiers quittent les lieux petit à petit, vous l'entendez peut-être, car de la tension, il y en a eu ce soir, 6 heures de travail acharné, 60 personnes mobilisées, 25 plongeurs, une grue, un immense filet, des manœuvres très techniques, très compliquées, d'autant qu'il y a eu quelques difficultés, notamment pour immobiliser l'animal. Beaucoup d'habitants ont assisté à la scène également, certains même jusqu'au bout de la nuit, et puis un peu avant 4 heures du matin, vous l'avez dit, c'était un soupir de soulagement général au bout du suspense. Le beluga sort enfin de l'eau. Image impressionnante d'une silhouette blanche retenue dans un filet, comme une grande statue de marbre, en fait, à la lumière de la nuit. Mais attention, c'est loin d'être fini. Sous perfusion, car il souffre de déshydratation, le beluga est en train d'être chargé, là, dans un camion réfrigéré qui va le transporter jusqu'à Ouistreham. Ouistreham, où il doit passer quelques jours dans une écluse sous haute surveillance médicale avant qu'il puisse être relâché en haute mer. On l'espère en bonne santé.
Merci beaucoup, Mathieu Limongi. On vous retrouve tout au long de la matinée. Et on suit avec vous cette opération de sauvetage de ce beluga qui était coincé dans la Seine.
Une opération très, très délicate hein, qui a pris toute la nuit et ça n'est pas terminé. Sachez que tout à l'heure à 7h10, dans une petite heure, on sera en ligne en direct avec Isabelle Brasseur. Elle est venue tout spécialement du Marineland d'Antibes, experte des cétacés pour participer à ces opérations. Elle nous dira en direct comment les choses sont en train de se passer. Il est 6h03 sur RMC. Situation très défavorable ce matin en Gironde, les feux de forêt ont repris dans le secteur de Landiras.
C'est le constat fait par les pompiers. En seulement quelques heures, ce sont 1000 hectares de pins qui sont partis en fumée. 3500 personnes ont dû être évacuées, comme à Oustens, où tous les habitants du bourg ont dû quitter leur domicile, Garance Munoz.
Refaire ses valises, fermer à nouveau sa maison sans vraiment savoir quand il reviendra, c'est la deuxième évacuation de l'été pour Xavier qui habite au Stance.
Forcément, on laisse sa maison, donc on ne sait jamais dans quel état on va la retrouver. Surtout qu'on l'a déjà vécu une première fois où, soi-disant, on devait partir pour quelques heures et puis que ça a duré plus d'une semaine. Donc là, on a toujours peur que ça se renouvelle de la même façon et qu'on soit malheureusement amené à ne pas rentrer demain ou après-demain.
Dans la salle communale qui accueille ceux qui ne savent pas où aller, Georgette est attablée avec ses voisins, encore sous le choc.
C'est les voisins qui m'ont dit ça, ils m'ont dit vite, vite. Prépare-toi, il faut évacuer. Quand on voit ces grands machins de flammes, là, ça fait peur quand même.
Elle ne sait pas où elle dormira les prochains jours. C'est le maire d'Ostens, Jean-Louis Dartilly, qui assure l'organisation une situation compliquée face à un incendie violent.
Ça brûle vraiment intensément. Les pompiers n'essaient pas de lutter. Ils sont en faction devant les maisons pour les protéger. Ils arrosent les maisons. On espère que ça s'arrêtera quand il pleuvra.
L'ensemble de la commune d'Ostens a été évacué.
La France toujours frappée par la sécheresse. On va continuer d'en parler ce matin et de parler des terrains de football. Les clubs professionnels disposent d'une dérogation pour pouvoir arroser les pelouses et les maintenir vertes. Est-ce que ça vous choque? Ça n'est pas le cas évidemment des clubs amateurs où ça pose beaucoup plus de problèmes. On va en parler avec le président de la Ligue de football des Pays de la Loire tout à l'heure à 6h40. Il sera mon invité.
Autre brasier qui inquiète les autorités, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il sera d'ailleurs sur place dans la journée. C'est entre l'Aveyron et la Lozère, où ce sont 700 hectares de végétation du parc naturel régional des Grandes Causses qui ont disparu. L'incendie a cessé de progresser, mais il n'est pas encore maîtrisé.
Des incendies favorisés par les fortes chaleurs et donc par cette sécheresse. Sécheresse qui a des conséquences dans notre vie de tous les jours.
Plusieurs centaines de communes du pays sont privées d'eau potable. D'autres encadrent la consommation d'eau, comme dans ce village de Lain à Arbois en Bugey, où le maire a tout simplement décidé de couper l'eau du robinet 8 heures par jour, Romain Poiseau.
Cette habitante vit dans la commune depuis 30 ans et elle a du mal à comprendre ses coupures d'eau.
Moi, ce qui m'impacte le plus, je vais vous le dire, c'est de sortir des toilettes et pas avoir d'eau pour me laver les mains. À côté de ça, ce qui m'énerve, c'est quand je vois qu'on arrose les champs de maïs, il est foutu le maïs. Pourquoi continuer à arroser ?
Même quand l'eau coule, pas question de la boire ou cuisiner avec. En restant bloquée plusieurs heures dans les canalisations, elle devient non potable. Isabelle, une autre habitante, approuve la décision et s'adapte.
Tout ce qui est lavage de main, tout ça, on récupère l'eau dans les bassines pour la chasse d'eau, entre autres, dans la journée. On adapte nos douches, on a des minuteurs sur les machines, on les fait tourner la nuit. Bon, nous, ça se passe relativement bien.
C'est la première fois que le village est confronté à un manque d'eau aussi important.
On a plus que deux sources qui fonctionnent et la troisième ne fonctionne plus.
Alors, il faut faire des efforts pour le maire Charles-Michel Riera.
C'est une décision drastique qui ne se fait pas de gaieté de cœur. Ça passe très difficilement. Il va nous falloir revoir dans nos maisons individuelles certaines choses. Il faut absolument y arriver.
Depuis hier, la commune distribue de l'eau en bouteille aux habitants. Chacun a droit à 3 litres d'eau par jour.
L'émotion ce matin dans les Bouches-du-Rhône. Une fillette de 5 ans est morte, noyée hier. Elle a été emportée par le courant et n'a pas pu être réanimée par les secours. Une autre jeune fille de 7 ans a pu être secourue par les pompiers avant d'être transportée à l'hôpital.
6h07 sur RMC et c'est aujourd'hui que s'ouvre au Royaume-Uni le procès de Benjamin Mendy.
Le footballeur français est accusé de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Benjamin Mendy qui nie les faits, qui se serait déroulé entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile. Et c'est un procès ultra médiatique qui attend le champion du monde français, Nicolas Pelletier.
C'est dans la petite salle d'audience du tribunal de Chester, au sud de Manchester, que Benjamin Mendy fera face au juge à partir de 11h ce matin. 7 femmes, dont une mineure, accusent l'ancien international français de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Ces faits présumés auraient débuté en 2018 et se seraient tous déroulés dans son manoir de Presbury. Pendant plus d'un mois, Benjamin Mendy, qui a plaidé non coupable, va devoir s'expliquer sur le fond du dossier. Les débats vont tourner autour de la question du consentement. Sous contrôle judiciaire depuis janvier, la vie du champion du monde 2018 a été complètement métamorphosé, privé de passeport et obligé de pointer quotidiennement au commissariat. Depuis le début de l'affaire, le Français et ses avocats ont décidé de ne pas prendre la parole en public. Après ses 134 jours de détention fin 2021, Benjamin Mendy risque la perpétuité.
Nicolas Pelletier, envoyé spécial au Royaume-Uni pour RMC.
Est-ce le retour du rhume des foins ? Vous avez le nez qui coule, une gêne respiratoire, vous êtes fatigué. Peut-être que vous ne supportez pas l'ambroisie.
Le pollen d'ambroisie qui vient gâcher en avance l'été des personnes allergiques. Ce sont entre 1 et 3,5 millions de Français qui sont concernés d'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et c'est l'une des conséquences des vagues de chaleur de cet été, Antoine Martin.
D'habitude, le pollen d'ambroisie fait des dégâts fin août, mais avec les fortes chaleurs, Jean-Pierre Sauvadon, président de l'association Stop Ambroisie, a eu des symptômes bien en avance.
Depuis 25 ans que je suis allergique, c'est là au plus tôt j'ai eu les premières crises le 4 août. Et cette année, effectivement, j'ai eu les premières crises le 12 juillet.
Nez qui coule, fatigue, gêne respiratoire allant jusqu'à l'asthme. La canicule est un facteur aggravant, explique Patrick Ruffin, pneumo-allergologue à l'hôpital Necker.
L'augmentation de la température entraîne une pollinisation qui est plus précoce, qui est plus durable et qui est plus intense.
Ce qui inquiète l'allergologue, c'est la propagation de l'ambroisie hors de la vallée du Rhône. Le réseau national de surveillance aérobiologique alerte déjà.
Eh bien, il y a maintenant de l'ambroisie en Corrèze. Maintenant, on le retrouve même en région parisienne. Il y a une alerte du RNSA qui dit que la semaine prochaine et la semaine suivante, il va y avoir une pollinisation qui va être tout à fait significative.
La désensibilisation permet de la soigner. Sinon, il faut veiller à arracher les pieds d'ambroisie le plus tôt possible. Cette plante envahissante peut persister dans le sol jusqu'à 50 ans.
À 6h09 sur RMC, on en vient à l'actualité du football. Et la marche était un peu trop haute hier soir pour Monaco.
Les Monégasques n'ont rien pu faire face aux joueurs du PSV Eindhoven. Ils ne disputeront pas la phase de poule de la Ligue des Champions. L'ASM a donc été battu après prolongation, 3-2, alors que le club de la Principauté était qualifié à 2 minutes de la fin, Arnaud Valadon.
Abattu, sonné, hagard, les joueurs de l'AS Monaco étaient KO debout hier soir dans l'enfer du Philips Stadium d'Eindhoven. Pourtant, l'ASM avait tout fait hier soir en menant 2-1 jusqu'à la 88e et après avoir encore touché à 2 reprises les montants. Une fin de match cruelle en prolongation qui replonge Monaco dans ses démons. Battu l'an passé en barrage par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, les Monégasques ont encore failli. Cela fait désormais 4 ans qu'ils ne disputent plus la phase de poule de Ligue des Champions, convoité à la fois pour le prestige mais aussi pour ses rentrées financières, minimum 15 millions d'euros. La fin du mois d'août s'annonce agitée pour l'ASM qui avait prévu de recruter mais qui pourrait être contraint de céder d'autres joueurs majeurs après déjà le départ d'Aurélien Tchouaméni en juin pour 80 millions d'euros au Real Madrid.
Arnaud Valadon pour RMC. Et ce rendez-vous, le Real Madrid vainqueur de la Ligue des Champions affronte Francfort, vainqueur de la Ligue Europa ce soir à 21h en finale de la Super Coupe d'Europe. Ce sera à Helsinki en Finlande. Match à suivre à partir de 21h à la télévision sur RMC Sport 1 et puis évidemment à la radio sur RMC. Rendez-vous donc à 21h.
Stéphane Genest pour le journal de 6h sur RMC. Il est 6h10. Je reviens sur cette image qu'on a vue en début de journal. Si vous êtes avec nous sur RMC Story Canal 23, image impressionnante de ce beluga qui est sorti de l'eau de la Seine cette nuit. Hein. Salut Anaïs Castagna.
Bonjour Sébastien.
Impressionnant, hein, cette opération extrêmement délicate cette nuit.
On l'a suivi évidemment, il a été extrait aux alentours de 4 heures. Hein. On suit ça évidemment de très près, on espère que ça va bien se passer, c'est une opération très délicate. Hein.
6 heures, il a fallu 6 heures pour le sortir de l'eau dans un filet, ce beluga qui fait quand même 800 kilos. Hein.
C'est pas rien. Non.
C'est pas tout petit, hein. c'est compliqué et les spécialistes...
4 mètres
vraiment...
de long me dit-on.
Ouais. Alors maintenant il va falloir
Et qui va mal. Hein.
Et voilà, c'est ça, il est très affaibli, il va falloir le mettre dans un camion maintenant, le transporter jusqu'à Ouistreham, il y a 160 km à faire, et c'est pas du tout sûr qu'il puisse survivre, hein. Les spécialistes disent vraiment que c'est une opération très risquée. On va continuer de suivre ça évidemment tout au long de cette matinée. Cet animal se cétacé retrouvé dans la Seine, situation assez exceptionnelle, hein. Ça n'arrive absolument jamais, c'est un animal qui vit dans les eaux polaires. Et tout à l'heure à 7h10, la responsable de recherche et de la conservation du parc du Marineland d'Antibes sera avec nous, Isabelle Brasseur. Elle a fait le voyage jusqu'en Normandie pour justement aider à ces opérations, et elle a été du coup sur le pont toute la nuit. Elle va nous raconter exactement où on en est tout à l'heure à 7h10. Il est 6h12 sur RMC, très bon réveil.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre sur RMC, le débat du jour face à la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que les patrons doivent faire plus d'efforts? Est-ce qu'ils doivent mieux payer les salariés? On vous pose la question ce matin concrètement sur RMC. Appelez-nous au 3216 et vous nous écrivez également sur l'application Direct Studio. On vous attend.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h13 sur RMC. Soyez tous les bienvenus. Et notre débat du jour, et je vous attends au 32-16 et sur l'application RMC, onglet direct, studio, la France face à la pénurie de main d'œuvre. C'est la deuxième urgence après le pouvoir d'achat, disait il y a quelques jours le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On manque partout de bras dans l'hôtellerie, la restauration, le BTP, les transports. Rien que pour l'hôtellerie-restauration, c'est 200 000 postes vacants en ce moment. Alors à qui la faute? La faute aux salariés qui profitent peut-être un petit peu trop des protections offertes par le chômage, ou la faute aux patrons qui ne savent plus attirer les salariés et qui n'augmentent pas suffisamment les salaires? 32-16, on en débat tous ensemble à 7h40. Un patron sera face à vous et répondra à vos questions au 32-16. Et puis, il y a des exemples où les chefs d'entreprise parviennent à garder leurs salariés en améliorant les conditions de travail, en prenant soin de leurs salariés. Ils parviennent à les fidéliser. C'est patron qui trouve des solutions. C'est le reportage de la rédaction ce matin. Il est signé Paul Barcelone pour RMC.
Pour attirer puis garder des employés...
Il n'y a pas 50 000 solutions. Hein.
Une marche à presque tous les coups, augmenter les salaires. Ce qu'a fait encore récemment David Zenouda, propriétaire de plusieurs bars et restaurants.
Moi, sur un établissement que j'ai sur la côte atlantique, on a dû proposer des salaires augmentés par rapport à ceux de l'année dernière d'environ 10 à 20%. Le chef de cuisine qu'on a pris cette année, il est payé nettement plus que celui de l'année dernière.
Mais il n'y a pas que les salaires. Certains chefs d'entreprise misent aussi sur les conditions de travail. Salle de repos à disposition, week-end de 3 jours, ou encore télétravail et voiture de service. Option choisie par Francis Dubrac, patron d'une entreprise de BTP en Seine-Saint-Denis.
Je rageais avant de partir en congé en me disant que mon entreprise devenait un garage automobile parce que tout le monde veut une voiture électrique ou une voiture hybride pour se déplacer, venir au boulot le matin. Ce qui compte, c'est que le salarié se sente bien, autonome, ayant la confiance de son patron. C'est sûr que le matin, quand vous vous levez, vous posez le premier pied par terre, vous dites qu'est-ce que je vais faire de sympa aujourd'hui. Si vous n'avez pas ça en tête, changez de boîte.
Des efforts synonymes d'investissement, souvent de plusieurs milliers d'euros, qui obligent ces chefs d'entreprise à rogner sur leurs marges.
Voilà pour ce reportage signé Paul Barcelone. Les patrons doivent-ils faire plus d'efforts pour attirer les salariés dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre? On en parle tous ensemble au 32-16. Et je salue Nicolas qui est avec nous ce matin au 32-16. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour tout le monde.
Ça va bien réveillé ce matin?
Oui, ça va.
Vous nous appelez d'où, Nicolas?
Brive-la-Gaillarde.
Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis livreur pour la restauration.
Vous êtes livreur
dessert, principalement.
C'est un secteur qui cherche aussi de la main-d'œuvre?
Beaucoup. En plus, je suis en direct avec les patrons, avec les restaurateurs, et c'est un peu compliqué pour eux.
Qu'est-ce que vous pensez de ces patrons qu'on a entendus dans le reportage et qui font des efforts, justement, pour tenter de conserver, de fidéliser leurs salariés?
C'est très bien. Après, il faut que l'État aussi les aide aussi dans cette démarche. Et on est dans un monde aujourd'hui qui change, qui est différent de nos parents. Et tout va plus vite aujourd'hui. Et je pense que la mentalité fait qu'on doit travailler, mais pas longtemps. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que le temps de travail doit être réduit et surtout aménagé. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Et moi, je vous donne des exemples.
Mais vous êtes attaché à garder un certain équilibre avec votre vie perso, avec votre temps de repos.
Ouais. Bien sûr. Moi, à la base, je viens de la région parisienne et je suis arrivé à Brive il y a 5 ans. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver du boulot qui me correspondait parce qu'en fait, j'ai eu affaire à beaucoup de patrons où les horaires, c'est de telle heure à telle heure et ça bouge pas. Et moi, je leur disais, non, mais regardez, là, si je me décale d'une demi-heure ou d'une heure cette heure-là, je la rajoute sur mon temps de repos. Du coup, ça me permet d'arriver plus tôt. Donc, du coup, je suis pas obligé de mettre mon enfant à la crèche. Et on me disait, non, je peux pas faire de privilèges. C'est comme ça pour tout le monde et ça bouge pas. Et aujourd'hui, le problème, il est là. C'est qu'il y a beaucoup de patrons aujourd'hui. Donc, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais j'en ai fréquenté beaucoup où on n'aménage pas en fonction de ce que vous réclame de ce que réclame l'employé. Il y a des employés qui, eux, ça leur dérange pas de finir à 18h. Il y en a certains, ça les dérange. Donc, je pense qu'on peut aménager tout ça. Et je pense qu'à la base, c'est l'une des premières difficultés.
Le problème, Nicolas, c'est qu'on peut pas toujours le faire. Il y a des secteurs dans lesquels on peut pas le faire, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration. Ce matin, j'avais un boulanger justement qui me disait, mais moi, c'est compliqué. À chaque fois que je reçois un demandeur d'emploi qui cherche du travail, il me dit qu'il veut pas travailler le week-end. Ça aussi, c'est compliqué quand même.
Oui, ça c'est compliqué, mais qui a fait l'erreur de tout ça? Je pense que c'est la mondialisation, la télévision aussi est très coupable de ça, parce qu'aujourd'hui les jeunes, moi j'ai 2 enfants qui ont 10 et 12 ans, et ce qu'ils pensent aujourd'hui du monde, c'est les influenceurs, c'est les joueurs de foot qui gagnent des millions, c'est devoir constamment mettre en avant cette richesse.
Et c'est quoi, ça incite pas à travailler, c'est ça que vous dites, ça incite pas forcément à faire trop d'efforts.
Quand on publie des émissions de télé-réalité, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais tous les jeunes de n'importe quel âge, même à partir de 8 ans, ils regardent tous les émissions de télé-réalité, c'est... En plus, c'est diffusé à des heures accessibles pour eux. Moi, je pense que déjà, ça, c'est une grosse erreur. On peut pas mettre à disposition dès 18h sur une chaîne libre des voir des influenceurs ne rien faire.
C'est pas un modèle de travail et d'effort, quoi.
Sur TikTok, moi, ma fille, elle a 8 ans, elle veut être influenceuse. Elle me dit, papa, je veux une chaîne YouTube. Donc dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est un métier? Peut-être que oui, parce qu'au final, ils font ça, ils gagnent plein d'argent. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut rechanger tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Enfin, moi, je pense que c'est trop tard. Le mal, il est fait. Maintenant, on paye les conséquences.
Mais, réhabiliter le travail, quoi. Dès l'enfance, dire réapprendre à la valeur du travail, c'est ça que vous dites?
Moi, je pense que oui. Là, par exemple, regardez, c'est un exemple tout bête. Moi, il est un peu jeune, mon fils, il a 12 ans. Là, juillet-août, on n'est pas parti en vacances. C'est, hormis l'emmener au lac et tout, c'est très compliqué de le distraire. Et un matin, je lui ai dit, non, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu viennes bosser avec moi. Tu verras, ça va te distraire, ça va te faire passer le temps. Mais bon, à quel âge maintenant on peut plus. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais 14-15 ans, je pouvais déjà faire des petits boulots à droite à gauche. J'étais payé comme ça à la main. Aujourd'hui, on peut plus. Moi, des fois, je cherche à faire des petits extras et il y a des employés qui me disent non, mais je peux pas te prendre parce que je peux pas te payer à la main.
Alors il y a ça et puis il y avait aussi pas mal d'entreprises qui trouvent pas de saisonniers. On en a parlé régulièrement sur RMC. Ces entreprises qui ne trouvent pas, y compris des jeunes, pour faire des jobs d'été. Merci beaucoup Nicolas pour votre témoignage ce matin. Au 32-16, on entend un peu vos réserves et à la fois votre coup de gueule sur une jeunesse qui n'est plus éduquée à la valeur travail. On en parle tous ensemble de cette pénurie de main-d'œuvre, cette difficulté à recruter. La faute à qui? Je vous pose la question ce matin. 32-16, l'appli RMC, 6h21.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, les pépites RMC, ce sont nos histoires du matin avec Anaïs Castagna et Quentin Dubois. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien.
Ton histoire du jour.
Je vous parle d'une tradition française qui perdure depuis des années, les salons de coiffure et leurs noms plus ou moins originaux.
A tout de suite sur RMC, très bon réveil.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
6h24 sur RMC et RMC Story, Canal 23.
Les pépites RMC.
Les pépites RMC, ce sont nos histoires insolites repérées chaque matin par Anaïs Castagna et par Quentin Dubois. Quentin, on commence avec un classique, toi qui aimes les jeux de mots. Les jeux de mots, des noms, des salons de coiffure. Une carte recense les meilleurs noms. Elle a été mise en ligne.
Oui, elle a été mise en ligne sur le site tif.rtif.hir. Vous trouverez une carte interactive assez incroyable. Elle est basée sur les données de l'INSEE et elle recense les salons de coiffure aux noms les plus originaux. 6104 salons quand même sont répertoriés sur la carte, en sachant que celle-ci n'est pas exhaustive puisqu'il y a environ 86 000 salons en activité en France. Donc pour cette sélection, les salons avec dans leur nom les mots TIF, R, épi ou mèche par exemple, et qui jouent avec, c'est très important, ont été gardés. On peut donc découvrir les meilleurs jeux de mots possibles.
Bon, t'as trouvé ton bonheur, quels sont tes préférés?
Alors, il y en a pas mal. Hein. La carte est organisée en tout un tas de catégories. Si on est plutôt littéraire, matheux, qu'on adore les animaux, l'informatique, la pop culture, il y a forcément une catégorie pour vous. Dans l'ensemble, les propriétaires de salons de coiffure ont beaucoup d'imagination et ils y tiennent à leur pépite, au nom qui sera unique et qui fera mouche auprès des clients. Moi, j'ai beaucoup aimé le Prince de Bel Air, H-A-I-R donc, à Lens, dans le Pas-de-Calais, le salon Voltaire Coiffure, qui se trouve à Paris, à l'arrêt de métro Voltaire, évidemment. Ou si vous préférez la nourriture, le salon Clafoutif vous accueillera dans le Pas-de-Calais.
Tout est possible, les Clafoutifs. Il y a des jeux de mots qui reviennent plus que d'autres?
Oui, forcément, il y a des noms qui ont la cote plus que d'autres. Hein. Les trois noms les plus utilisés sont Diminutif, avec 156 salons quand même. Ensuite, Imagine Air, 149 salons. Et Bulle d'air avec 142 salons, donc qui arrivent en deuxième et troisième position. Et il y a aussi des noms encore disponibles si vous voulez vous lancer, comme Apéritif, qui apparemment n'est pas encore utilisé.
Ah oui. Ouais, bon, c'est soit TIF, soit R, il y a de quoi faire.
Et peut-être parce que tu es obligé de livrer l'apéritif avec la coiffure.
C'est peut-être pas légal d'ailleurs de boire en se faisant coiffer, je sais pas.
Il y en a qui sont plus originaux.
C'est risqué.
Oui, alors j'ai un petit faible pour les salons Ainsi soit TIF et Bouc émissaire. Ça paraît simple, mais ils ont dû passer du temps à les trouver, c'est sûr. Sachez que si vous êtes en Haute-Loire ou dans la Creuse, ces deux départements sont ceux qui possèdent le plus de jeux de mots en France. Vous êtes les plus imaginatifs, bravo.
Cette c'est carte, beau. Donc en ligne, carte des salons de coiffure, aux noms les plus originaux. Enfin voilà, tous les jeux de mots sont possibles.
Et il y en a beaucoup.
Anaïs, un autre classement publié. Vous êtes en mesure de nous dire quel est l'aliment le plus détesté des Français?
Eh oui, et c'est l'endive. T'as bien entendu, l'endive. Je suis tombée de ma chaise en découvrant le résultat de ce classement. Pourquoi? Publié par Deliveroo. Je pensais que les épinards étaient indétrônables, moi, parce que je sais que ça
a traumatisé
plus d'un Français. Bah, ça apparaît dans le classement. Attends, Sébastien. Au final, donc, les épinards ne sont pas dans le top 10 et c'est donc l'endive que les Français détestent le plus. Tu me demandais pourquoi? Bah, pour son amertume. C'est pourtant bon. Au jambon, en salade, braisé. Enfin, moi, je suis fan aussi. Dans le top 10 des aliments que les Français détestent le plus, il y a aussi, dans l'ordre, le gingembre, les fruits secs, les sardines, qui sont pourtant très bonnes pour la santé. En plus, j'adore. Les choux de Bruxelles, tu vois, on y vient. La coriandre, les oignons, la réglisse, les poivrons et les huîtres. Bon, là, c'est moins
les
surprenant.
Huîtres, c'est
ça fait pas l'unanimité.
Les huîtres, ça
texture,
peut...
Texture.
C'est un peu...
Toi, il y a un aliment que tu détestes?
Alors, moi, il n'est pas dans le classement. Moi, je hais le melon.
Melon?
Je suis navré. Je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup le melon.
Très surprenant. Première fois que j'entends ça.
Melon contre endive, c'est étonnant.
Ouais,
vraiment.
Ouais.
Ah, mais les endives.
Moi, j'adore le melon. Par contre, les endives sans jambon, c'est dur.
Avec la petite béchamel gratinée au four. Voilà. Essayez les endives gratinées.
Même pas besoin de crème. Même pas besoin de crème. Les endives, c'est un délice.
Et toi, Anaïs, c'est quoi ton classement de.
Moi, je déteste l'ananas.
Voilà. Ah oui?
Ouais. Ouais. Bon.
Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Voilà. 6h28 sur RMC et RMC Story dans un instant. La météo et le journal de 6h30. 6h30 sur RMC et RMC Story. Tout de suite l'info avec Alexandra Sirgan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. En Aveyron, l'incendie toujours pas maîtrisé. Les 3000 personnes évacuées ont dû passer une deuxième nuit loin de chez eux. L'attaquant chilien Alexis Sanchez accueilli par une foule en liesse à Marseille. RMC y était. Et puis le Beluga en voie de retrouver la mer. La première étape de l'opération de sauvetage réussie cette nuit.
Nous allons d'abord dans l'Aveyron où l'incendie ne progresse plus, mais il n'est toujours pas maîtrisé.
700 hectares de végétation ravagés en deux jours. Le ministre de l'Intérieur doit se rendre aujourd'hui sur place pour faire un point sur la situation. 3000 personnes ont été évacuées. Parmi eux, les vacanciers d'un camping. 700 personnes ont été prises en charge à Millau pour la deuxième nuit consécutive.
Une deuxième nuit, là, c'est dur par contre.
Ouais. 1h30 du matin, on a frappé au mobilhome. Faut évacuer tout de suite, prendre juste le nécessaire. Du coup, on n'a pas cherché.
Change, le sac à main et on est parti en pyjama. Les habitants aussi de Millau qui sont venus nous demander si on avait besoin de quelque chose. Voilà, nous apporter des serviettes de toilette, des produits d'hygiène, première nécessité qu'on n'avait pas. Et
ça... Franchement, la solidarité ici, vraiment, c'est chouette.
C'est un peu dur là parce qu'on est un peu cloîtré dans cette salle des fêtes. Bon, après, on a la ville de Millau qui est à côté, donc on a de quoi passer le temps. J'espère qu'on va se débloquer dans les prochains jours, là, qu'on peut retourner sur notre camping, ce serait plutôt pas mal.
Et le département n'est pas le seul à être frappé par des incendies. C'est aussi le cas dans le Maine-et-Loire, en Isère et en Gironde. Le département connaît depuis hier des reprises de feu près de Landiras. 1000 hectares sont partis en fumée. Le mois dernier, déjà 14 000 hectares de végétation ont brûlé dans ce secteur.
La politique et cette proposition qui fait débat au sein même de la majorité présidentielle.
Élargir le droit de vote à tous les étrangers pour les élections municipales. Proposition du député Renaissance Sacha Houlier, également président de la commission des lois à l'Assemblée. Depuis 30 ans, les citoyens de l'Union européenne résidant en France ont ce droit. Le texte divise au sein de la majorité, mais aussi au sein de l'opposition. Philippe Bayard, député du Rassemblement national dans l'Oise, s'y oppose fermement.
Il y a sans doute effectivement beaucoup plus de Britanniques depuis le Brexit qui ne pourront plus voter. Mais en fait, derrière tout cela, il y a un autre projet. C'est de faire voter des ressortissants du Maghreb, d'Afrique, voire asiatiques. Imaginez ce qui pourrait se passer dans des villes comme Trappes, comme Roubaix, comme Vénissieux. Et on pourrait multiplier malheureusement les exemples. La proposition de Monsieur Houlier fait tout simplement le jeu du communautarisme et de la sécession de la France.
Voilà, Philippe Ballard du Rassemblement National, et on parlera de cette idée tout à l'heure à 8h40 avec le député Les Républicains Éric Ciotti, qui est mon invité politique ce matin, qui est vivement opposé lui aussi à cette idée, pourtant lancée par Nicolas Sarkozy à l'époque au début des années 2000. On en parlera à 8h40. Il est 6h33 sur RMC. L'Iran accorde une permission de sortie de prison à Farida Aldera.
Cette chercheuse franco-iranienne détenue en Iran depuis 3 ans, condamnée pour atteinte à la sûreté nationale, Fariba Adelra va pouvoir sortir de sa cellule de prison à Téhéran, mais seulement pour 5 jours, une première avancée selon son comité de soutien contacté par Romain Houg.
Voilà une annonce qui soulage un peu ceux qui soutiennent Fariba Adelra sans faille depuis maintenant plus de 3 ans. Parmi eux, le chercheur Jean-François Bayard.
C'est une joie, mais une joie tempérée dans la mesure où cela ne change rien au fond du problème. La détention de Fariba Adelra est complètement inique. Alors là, elle a un répit. Nous nous en félicitons, mais encore une fois, l'injustice totale.
Car ses proches ont toujours démenti les accusations d'espionnage qui pèsent contre Fariba Adelra. Pour eux, l'Iran se sert d'elle comme d'une otage politique pour peser dans les négociations diplomatiques avec la France. Mais rien, selon Jean-François Bayard, n'entamera la détermination de la chercheuse.
Elle a eu des moments, pas d'abattement, parce que ça n'est pas son caractère, mais des moments de tristesse, de désarroi. Mais elle reste très combative. Elle exige sa libération immédiate, inconditionnelle, parce qu'elle est innocente.
5 jours de liberté toute relative, donc au cours desquels Fariba Adelra devrait pouvoir retrouver sa famille et son nouvel appartement à Téhéran. Son avocat, lui, espère que cette permission pourra être prolongée.
Les précisions de Romain Houg. Coup d'envoi aujourd'hui de la vaccination contre la variole du singe en pharmacie. Une expérimentation de 2 semaines débute donc aujourd'hui. Elle concerne 5 officines situées en Île-de-France, en Provence, Alpes-Côte d'Azur et dans les Hauts-de-France. Objectif de cet essai, déterminer s'il est possible ou non d'étendre cette campagne de vaccination au niveau national. Presque 1 an après son arrestation, le footballeur Benjamin Mendy fait face à la justice. Le procès de l'ancien international français s'ouvre donc aujourd'hui au au tribunal de Chester en Angleterre. Cette femme l'accuse de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Le footballeur risque la perpétuité.
Et puis le football côté terrain, maintenant on l'a appris hier, Alexis Sanchez va défendre les couleurs de l'OM.
Arrivé hier soir à l'aéroport de Marseille, l'attaquant chilien de 33 ans portait déjà l'écharpe et le maillot du club. Il a été accueilli par une foule en liesse, tambour et fumigène à la main. Parmi eux, notre reporter Florent Germain.
Oui, devant un immense drapeau du Chili ramené pour l'occasion à l'aéroport de Marignane, les supporters marseillais se sont d'abord chauffés la voix en attendant Alexis Sanchez. La star chilienne, ancien du Barça, d'Arsenal ou de l'Inter Milan, a débarqué à 20h50, pantalon blanc, maillot de l'OM avec le numéro 70. Ambiance chaotique, ambiance bouillante sous les cris et les fumigènes. Driss, fan de l'OM aux premières loges hier, voulait réserver à Alexis Sanchez une ambiance sud-américaine.
Il ne s'attendait pas à ça, il a connu l'Inter, Arsenal, Manchester, c'est des ambiances un petit peu feutrées, nous, chez nous c'est le feu, c'est comme chez lui.
Plus de 1000 supporters, de nombreux médias aussi et un journaliste chilien présent, Enzo Oliveira, convaincu que cette ambiance va transcender celui qu'ils appellent El Niño Maravilla, l'enfant prodige.
Il est venu chercher cela, le cœur, la passion. Il est habitué aux ambiances chaudes et à la pression. Il a joué au Barça, à Arsenal, à l'Inter. Alors il va mettre ce sac à dos plein de folie sur ses épaules, mais ça ne va pas lui peser.
Alexis Sanchez est la recrue star de l'OM. Il sera présenté en conférence de presse cet après-midi au stade Vélodrome.
La plus grande tenniswoman du monde tire sa révérence. L'heure est venue pour Serena Williams de remettre en jeu sa couronne. À bientôt 41 ans, l'américaine annonce qu'elle va prochainement prendre sa retraite, Léna Marjac.
Oui, l'ancienne numéro 1 mondiale veut se consacrer à sa vie de famille. Le compte à rebours a commencé, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Encore quelques semaines avant de voir la légende américaine ranger ses raquettes pour de bon. Est-ce une fin de carrière à New York lors du grand chelem américain en septembre prochain? Elle ne le dit pas officiellement, mais tout porte à le croire, car Serena Williams rêve encore d'une dernière victoire chez elle. « Je ne sais pas si je serai prête à gagner l'US Open, mais je vais essayer », a-t-elle confié au magazine Vogue. Avec 23 titres du Grand Chelem, 319 semaines à la place de numéro 1 mondiale, la petite fille afro-américaine qui a grandi dans une famille modeste et qui rêvait de devenir la meilleure joueuse de tennis au monde l'est devenue. Serena Williams a marqué le tennis de son empreinte.
Merci Léna Marjac. La retraite de Serena Williams, on y reviendra tout à l'heure plus longuement. Ce sera au menu de la Story Sport dans une petite heure sur RMC.
Et puis, lueur d'espoir ce matin, le Beluga va peut-être enfin pouvoir retrouver la mer. Après près d'une semaine d'errance dans la Seine, la première étape de l'opération de sauvetage réalisée cette nuit est réussie. La baleine blanche a pu être sortie de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne dans l'heure. Selon les sauveteurs, l'animal est bien vivant mais très amaigri. L'opération a eu lieu sous les yeux de plusieurs spectateurs impressionnés comme Elisabeth, habitante du département.
On a pu voir le beluga se transporter donc dans les airs, dans le filet. Enfin, c'est exceptionnel. On attendait un dénouement, comme celui-là, heureux. Je suis tellement heureuse. Je l'ai vu la dernière fois, il y a une semaine jour pour jour, et là de le revoir de cette manière et savoir qu'il va être extrait vers la mer, ouais, c'est un énorme soulagement, une très grande joie.
Et pour le moment, les sauveteurs mènent des contrôles supplémentaires sur l'animal pour savoir si le cétacé peut être acheminé vers Ouistreham.
Les courses, le quintet aujourd'hui, c'est sur l'hippodrome de Pornichet-Labeaume à 20h15.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le favori c'est l'As Galileo Bello, l'outsider le numéro 12, Écho de Champlessy, l'As et le 12. La course du quintet est à suivre en direct sur RMC Découverte.
Alexandra Sirgan pour le journal sur RMC, il est 6h39 et vous avez la parole au 32-16 tout au long de cette matinale. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs.
Bonjour. Bienvenue sur RMC, vous nous appelez d'où Laurent?
Là actuellement je suis à Roissy Charles de Gaulle.
Ah, vous partez, vous prenez l'avion ou vous travaillez là-bas?
Pas du tout, je suis en conducteur de semi-remorque et je suis en attente d'ici encore un petit quart d'heure.
D'accord, mais c'est bien que vous en profitez pour appeler RMC. Il y a un sujet qui vous fait réagir ce matin, Laurent, c'est cette proposition du député Sacha Houlier, député de la majorité présidentielle, qui propose d'étendre le droit de vote à tous les étrangers, donc plus seulement les ressortissants européens comme aujourd'hui, mais à tous les étrangers pour les élections municipal. Lui dit que c'est un facteur d'intégration. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, au contraire. Au contraire. Faut pas oublier que en France, on est dans un système d'élections pyramidales. C'est-à-dire que si on donne le droit de vote à des personnes pour les élections locales, faut pas oublier qu'un monsieur le maire, lui, va donner sa voix pour élire un sénateur. Donc, indirectement, On fait élire des sénateurs par les étrangers. Alors que on va faire quoi des électeurs à deux niveaux, ceux qui pourront voter à toutes les élections, etc. Maintenant, moi, ce que j'ai à dire, je suis entièrement pour, ça serait très bien que tout le monde puisse voter. Maintenant, le problème, c'est qu'on a un mode de vie en France qui comprend la démocratie, qui comprend une protection sociale, qui comprend plein de choses qu'on a mis des dizaines et des centaines d'années à force de combats dans tous les sens.
Après, c'est déjà le cas pour les Européens, Laurent. Les Européens peuvent déjà voter aux élections locales, mais pas nationales.
Ce que je veux dire, c'est qu'on insiste, nous, on marche avec un système en élection majoritaire. C'est-à-dire que si on se met tous d'accord pour enlever, par exemple, la sécurité sociale et travailler à l'américaine où c'est des retraites privées, du moment où tout le monde sera d'accord. Donc là, on ne parle même pas ni de racisme ni de façon de vivre. C'est-à-dire que notre modèle social peut très bien être cassé parce que la majorité va modifier quelque chose comme ça. Donc là, il faut que ça se fasse progressivement. Il faut que les gens, bien sûr, aient le droit de voter. Et le droit d'agir sur leur vie au quotidien, mais pour tout ce qui est les grandes décisions nationales, il faut que ça se fasse par l'intégration. Donc il faut que les gens soient français. Je suis désolé.
Là, on parle d'élections locales, donc on parle de décisions potentiellement, on parle du conseil municipal, on parle pas d'aller étendre le vote aux étrangers au-delà du conseil municipal, voyez.
Mais non, mais le problème, c'est que à ce moment-là, qu'on dise que le sénateur n'est plus élu en mode indirect. Le sénateur sera en direct par les Français, point.
Et là, vous avez raison, c'est que les élus locaux votent pour effectivement élire les sénateurs. On a entendu votre témoignage, Laurent, ça fait débat. On en parlera tout à l'heure avec Éric Ciotti à 8h40, lui aussi vivement opposé à cette idée. Pour l'instant, l'entourage de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a dit que le gouvernement n'en voulait pas de cette idée, mais ce débat va ressurgir forcément à la rentrée, parce qu'il y aura un grand débat sur l'immigration. 32-16, vos réactions également sur l'application RMC Anglais Direct Studio. Il est 6h42.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Bon rendez-vous dans cette matinale sur RMC et tout à l'heure à 7h10, on fera le point en direct sur cette opération extrêmement délicate pour sauver ce beluga qui s'est perdu dans la Seine. C'est toujours en cours. Le parc du Marineland d'Antibes a été appelé pour participer à ces opérations et nous serons en ligne avec Isabelle Brasseur, la responsable recherche et conservation du parc, spécialiste des cétacés. Elle a déjà connu des opérations de déplacement d'animaux dans le passé. Et elle a participé aux opérations cette nuit, ce beluga qui a été sorti de l'eau et qui est maintenant en route vers Ouistreham avec des risques très, très forts qu'il ne survive pas. Alors on va voir comment ça se passe ce matin. Et puis à 7h40, notre débat ce matin, face à la pénurie de main-d'œuvre, les patrons doivent-ils faire plus pour conserver leurs salariés, pour les attirer? 7h40, le chef d'entreprise Thibault Langsade, c'est l'ancien numéro 2 du MEDEF, il est mon invité ce matin. Il défend notamment l'intéressement et la participation pour les salariés. Vous aurez l'occasion de débattre avec lui, je vous attends au 32-16 et sur l'application RMC. Avant cela, Anaïs, on va reparler de la sécheresse qui continue de sévir partout en France. Faut-il continuer à arroser les pelouses des stades?
Oui, c'est indispensable, nous dira Didier Hézor. Il préside la Ligue de football des Pays de la Loire. C'est le parti pris du jour.
A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Très bon réveil sur RMC et RMC Story, il est 6h46.
Le parti pris.
Le parti pris du jour, c'est le vôtre. Didier Hézor, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC, vous présidez la Ligue de football des Pays de la Loire. Votre parti pris, c'est d'alerter sur la situation de nos terrains de football. La France est asséchée, sous restriction d'eau, mais on continue d'arroser les pelouses des clubs professionnels. Même dans les départements en crise, il y a des dérogations, ça choque un certain nombre de Français. Vous vous dites c'est indispensable, même si ça peut choquer notamment les agriculteurs qui, eux, sont très restreints.
Alors effectivement, ça peut choquer. Il s'agit tout simplement aussi de préserver une activité professionnelle extrêmement importante. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport au club, il y a effectivement tout un process économique qui fonctionne. Et donc, bien effectivement, on a ces terrains qui sont arrosés. Il faut savoir que c'est aussi un arrosage qui est aujourd'hui très bien conçu et qui permet en particulier de récupérer les eaux, etc. C'est le cas à Nantes où la nouvelle pelouse permet de récupérer effectivement aussi les eaux qui ne sont pas utilisées.
Oui. Alors cette dérogation n'est pas valable en revanche pour les clubs amateurs qui eux ne peuvent pas arroser. Vous estimez qu'il faudrait eux aussi les autoriser ?
Non, pas du tout. Non. Aujourd'hui, le football est un football citoyen et nous sommes concernés comme tout le monde par la sécheresse. Effectivement, les clubs de football s'adaptent. C'est difficile. Alors, ceux qui ont des terrains synthétiques sont évidemment moins pénalisés, mais pour le reste, bien effectivement, en fonction des situations, sur certains bassins, on peut encore arroser parce que il reste de l'eau, les nappes phréatiques, etc. Mais globalement, une grande partie des terrains ne sont plus arrosés depuis plus ou moins longtemps.
Ouais, et ça va poser des problèmes là à la rentrée pour la reprise des entraînements des différents championnats amateurs.
Oui, alors en fait, ça pose parfois des problèmes au niveau des entraînements. Ça dépend de chaque club. Ça peut poser des problèmes. La reprise des compétitions globalement pour l'ensemble du football français, c'est la Coupe de France pour les clubs amateurs. C'est la première compétition et on est à peu près tous sur toute la France entre les week-ends du 20, 27, etc.
Oui, donc ça arrive assez vite, là.
Voilà, nous, en ce qui nous concerne, c'est les 27, 3 et 10 septembre. On suit... Alors d'abord, on est en contact très proche avec nos clubs et on recense les problématiques et on va essayer de s'adapter pour que ces matchs puissent avoir lieu.
À plus long terme, est-ce qu'il va falloir adapter nos terrains de football à ce contexte, à ces sécheresses qui risquent de se répéter? Est-ce que dans certaines régions, il ne faut pas abandonner l'idée de garder une pelouse, aller vers une pelouse plus synthétique, par exemple?
Ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les pelouses synthétiques, même si ça ne remplacera jamais tout à fait le gazon, c'est la solution idéale et c'est celle qu'adoptent aujourd'hui beaucoup de mairies parce que, on a un temps de jeu très important, deux, des entretiens qui sont extrêmement limités, et donc c'est pour tout le monde très intéressant.
Ouais. Il y a des solutions aussi pour économiser l'eau dans certains stades aujourd'hui. Est-ce qu'on récupère les eaux de pluie? Est-ce qu'on fait en sorte de consommer moins d'eau quand on doit arroser?
Oui. Alors en fait, ça dépend des types de terrains. L'idéal aujourd'hui, c'est de récupérer. Alors sur les nouveaux terrains qui sont construits, on essaye effectivement de récupérer les eaux, même si, il faut le savoir, les nouveaux types de terrains peuvent amener à de terrains, en fait, parce que souvent ce sont des terrains, ce qu'on appelle hybrides, sont amenés effectivement à avoir un peu plus d'arrosage, mais dans ces cas-là, il faut récupérer l'eau. Voilà, c'est la solution. Et quand on construit un terrain, très souvent aujourd'hui, on essaie d'avoir un bac de déversement, hein, de manière à récupérer les eaux et à pomper dedans pour réarroser.
Merci Didier Hézard d'avoir été avec nous, président de la Ligue de football des Pays de la Loire. Votre parti pris, oui, il faut continuer à arroser les terrains du football professionnel, les pelouses, pour que les pelouses de la Ligue 1 notamment restent vertes. Merci à vous, 6h51 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on continue, hein, comme chaque matin, de prendre des nouvelles de tous ceux que nous avons aidés et accompagnés tout au long de la saison dans Apolline Matin. Avec vous, Johanna Chabas, bonjour.
Bonjour, je vous reparle de Chantal. Elle voulait être enterrée avec ses chiens, mais impossible car la loi l'interdit. Eh bien, les députés veulent changer les choses.
Et puis Anthony Kazmarek, vous allez répondre à une question.
Oui, cette question essentielle ce matin. Pourquoi Waze, Google Maps, Moovit et d'autres applications de navigation ne nous proposeront bientôt plus l'itinéraire le plus rapide?
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Sur RMC et sur RMC Story.
Ça vous concerne.
Ça vous concerne comme tous les matins avec Anthony Kazmarek. Rebonjour.
Rebonjour.
Anthony, votre rendez-vous conso. On va aller sur les routes puisque vous êtes très nombreux à partir, rentrer de vacances le week-end du 15 août arrive. Vous allez être nombreux dans les bouchons. Anthony, dans quelques mois, les applications qui nous servent sur la route, les Waze, Google Maps et autres, ne proposeront plus forcément l'itinéraire le plus rapide. Pourquoi ?
Eh bien parce que ces applications vont devenir plus vertes, plus écolo, en mettant en œuvre des dispositions publiées dans un décret du gouvernement le 3 août, qui découle de la loi climat votée il y a un an. Concrètement, on ne vous proposera donc plus l'itinéraire le plus rapide, mais l'itinéraire dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, si des portions à 110 km/h ou plus sont prévues sur le trajet, eh bien une alternative sur une route à 90 vous sera présentée. Et puis, dès que vous planifierez votre trajet sur l'application, celle-ci vous indiquera une estimation de la pollution engendrée par votre parcours, avec les quantités de polluants qui seront émis en fonction des modes de transport, car oui,
On vous proposera aussi des alternatives à la voiture, notamment pour les trajets les plus courts, par exemple la marche ou encore le vélo, mise en place de toutes ces mesures en décembre prochain.
Alors ça, je sens que ça va faire réagir, parce que ces applications, quand même, le but, normalement, c'est quand même de nous faire gagner du temps. Donc là, on va nous proposer un itinéraire qui sera pas forcément le plus rapide. Il y aura des messages de sensibilisation qui seront obligatoires.
Oui, et ils seront diffusés dès que le conducteur entrera son trajet dans l'application. Ces messages du type « passer de 130 à 110 km/h sur autoroute réduit votre consommation de 20% » ressembleront à ceux déjà obligatoires dans les pubs pour les voitures, et je salue la mouche qui tourne sur le plateau. Les applications de guidage devront aussi informer les utilisateurs de la présence de restrictions de circulation, comme les fameuses ZFE, les zones à faible émission, qui vont se multiplier dans les prochaines années. Enfin, des données relatives aux pistes cyclables et aux aires de covoiturage seront aussi obligatoirement affichées sur toutes les applications. Un beau bouleversement en perspective.
Un beau bouleversement. Donc on va entendre des messages en plus de tourner à droite, on aura attention, rouler à 110, vous permet d'économiser.
Voilà.
Très bien. Je vous laisse libre votre avis sur cette question. 6h56.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous. RMC vous vient en aide et nous rouvrons les dossiers qu'on a suivis tout au long de la saison avec Johanna Chabas. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Ce matin, vous nous reparlez de Chantal. Chantal qui voulait être inhumée avec ses chiens.
Oui, c'était sa dernière volonté. Tout était prévu. Chantal avait l'accord du cimetière animalier où étaient déjà enterrés ses chiens à Cadojac, près de Bordeaux. Mais au moment de sa mort, tout est finalement annulé. Les nouveaux propriétaires du cimetière refusent au nom de la loi. La préfecture ne veut pas faire de dérogation. Ève, la fille de Chantal, nous écrit en octobre, pour elle, il faut absolument respecter les dernières volontés de sa mère.
Elle a toujours vécu avec ses chiens. Il faisait partie de sa famille. Elle désirait être avec eux. C'était son souhait le plus cher. Elle m'avait indiqué que si je voulais amener des fleurs, ben c'était là. À Cadojac, le cimetière animalier de Cadojac. Bon, c'est pire qu'une trahison, parce qu'elle ne peut pas se défendre. Il n'y a que les gens qui témoignent de ses volontés qui peuvent la défendre.
Et donc, pourquoi elle ne peut pas être enterrée avec ses animaux?
En fait, il est interdit par la loi d'enterrer son animal dans un cimetière humain. C'est au nom de la dignité des morts. Alors, c'est incompréhensible pour beaucoup. Et suite à notre reportage, Loïc Dombreval et une vingtaine de députés ont déposé une proposition de loi en février. Elle devait permettre à un propriétaire d'être enterré avec les cendres de son animal dans son cercueil. Mais depuis les élections législatives en juin, de nombreux députés qui suivaient le dossier n'ont pas été réélus. Donc, tout est à refaire.
Et donc, le projet est abandonné?
Alors non, et c'est une information à RMC. Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime, un des co-signataires de la première proposition de loi, est lui toujours en poste, et il va déposer un nouveau texte à l'automne.
C'est un texte auquel je suis attaché, et donc je vais reprendre évidemment le flambeau. Il faut expliquer, parce que c'est vrai que quand on regarde ça de loin, ça peut paraître saugrenu, mais... cette loi est importante pour beaucoup de gens. On est en retard sur l'Allemagne, sur la Suisse, sur le Royaume-Uni, qui permettent déjà de faire respecter ce type de choix. C'est un texte de loi qui n'ampute la liberté de personne, qui n'a pas vocation à choquer qui que ce soit et qui finalement répond à une demande du 21e siècle. Voilà, on est en 2022 et la relation entre l'homme et l'animal a profondément changé et heureusement.
Donc une proposition déposée à l'automne, mais il faudra ensuite attendre que ce soit inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée. Donc les familles, comme celle de Chantal, vont encore attendre.
On va continuer de suivre ce dossier. Voilà, il est interdit aujourd'hui au nom de la dignité des morts d'être enterré avec les cendres de son animal de compagnie. Merci Johanna Chabas, 6h59, dans un instant la météo et le journal de 7h.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.